La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Depuis le temps qu'on en parle, c'est ce soir que la Chambre des représentants aux États-Unis doit voter la mise en accusation de Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain.
Et sauf très grosse surprise, Donald Trump va tout à l'heure devenir le troisième président dans l'histoire des États-Unis à devoir affronter un procès en impeachment devant le Sénat. Ce sera là aussi sans surprise au début de l'année qui vient et à la fin, Donald Trump devrait être maintenu à son poste par la majorité républicaine chez les sénateurs. Sachant cela, Trump aurait pu traiter toute cette procédure par le mépris ou l'indifférence, mais c'est tout l'inverse qu'il a fait hier encore, en se fendant d'une lettre officielle rageuse adressée à la speaker démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. 6 pages décrites par le Los Angeles Times comme un réquisitoire irascible et injurieux contre la procédure en impeachment. Une sorte de compilation des tweets les plus colériques du président de ses sorties les plus incontrôlées et les plus malhonnêtes proférées en meeting. L'enquête en destitution y est décrite comme une croisade partisane et abusive menée par les démocrates, une guerre ouverte contre la démocratie américaine, une tentative de coup d'État insensée et dangereuse. Rien de bien nouveau dans la formulation, mais un condensé de rage et de mystification publié à la veille donc du vote au Congrès, qui fait sortir de sa réserve jusqu'au d'ordinaire très modéré Los Angeles Times. Dans son édito du jour, le deuxième quotidien le plus lu du pays explique donc que si jusque-là il s'était refusé à céder à l'hystérie de l'impeachment, parce qu'il craignait que cela ne divise plus l'Amérique que ça ne serve sa démocratie, et bien après avoir lu donc la lettre de Trump à Pelosi, la rédaction du journal s'exprime en faveur d'un procès en bonne et due forme, dans la dignité et l'esprit de justice, bref, tout le contraire du cirque d'auto-justification hasardeuse et de manipulation crasse qui caractérise, selon le Los Angeles Times, le texte présidentiel.
Et cette fameuse lettre passionne l'ensemble de la presse américaine depuis hier soir.
Mais pour David A. Graham, sur le site du mensuel The Atlantic, le courrier est la preuve qu'il ne sert à rien, comme on a cherché à le faire depuis 2016, de vouloir dissocier Donald Trump, l'auteur compulsif de tweets à l'emporte-pièce, et le président Donald Trump dans l'exercice de sa fonction. En adressant avec en tête de la présidence une lettre qui n'a rien à envier au dit tweet, Trump lui-même met en pièce ce mythe des deux Trump. Alors, quand il critique les démocrates pour soi-disant abuser de leur pouvoir à des fins partisanes, pour manquer de respect aux institutions démocratiques et à l'héritage des pères fondateurs, l'argument est difficilement recevable tant il peut être retourné contre le président. Cette lettre, commente Dana Milbank pour The Washington Post, c'est comme si un homme accusé de trafic de stupéfiants, essayait de vendre un sachet de cocaïne à ses jurés à l'ouverture de son procès. En multipliant les erreurs de mauvaise foi dans sa défense, le président confirme les soupçons contre lui. Il répète le crime dont il est accusé, écrit Dana Milbank. Alors, face à tant de références pompeuses et hasardeuses au droit et à la Constitution américaine, la BBC a fait le choix de se tourner vers une spécialiste en la matière, la juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Elle n'est pas, loin s'en faut, dans le même camp politique que Donald Trump. Et quand on lui demande ce qu'elle pense des arguments juridiques développés par le président pour contrer l'impeachment sur Twitter, voilà ce qu'elle répond. Le président n'est pas un avocat, il n'a aucune formation juridique, c'est laconique de la part de Ruth Bader Ginsburg, mais c'est sans appel. Par sa lettre, hier encore, Donald Trump a montré qu'il avait sa propre interprétation du droit américain, celle d'un pouvoir présidentiel qui ne souffre aucune contestation. C'est Politico qui insiste sur ce point sous la plume de Natasha Bertrand. À plusieurs reprises dans sa lettre, le président invoque des privilèges accordés par la Constitution à l'exécutif, une manière pour lui de repousser l'accusation d'obstruction au travail de la commission d'enquête du Congrès. Ce point-là fait débat entre les juristes et constitutionnalistes américains, tant il porte une conception presque absolutiste du pouvoir présidentiel. C'est cela aussi, ce questionnement fondamental sur l'équilibre des pouvoirs dans la démocratie américaine qui est en jeu dans la procédure en impeachment.
Et puis retour à présent sur une épidémie, Camille, qui continue de frapper l'archipel des Samoa.
Oui, on est donc là en Océanie, presque au milieu du Pacifique. Les Samoa comptent les morts de cette épidémie de rougeole qui frappe leurs îles depuis 2 mois. Dernier bilan publié ce mercredi par la RNZ, la radio publique néo-zélandaise. 76 morts, dont la plupart sont des enfants de moins de 4 ans. Le gouvernement samoan vient de prolonger l'urgence sanitaire jusqu'à la fin du mois, signe que la maladie n'est pas encore complètement maîtrisée. La rougeole tue donc massivement à l'autre bout du monde. Alors, une équipe de reporters du Guardian britannique s'est rendu sur place pour tenter d'expliquer une telle hécatombe. Et l'on comprend vite d'où est venue la faille dans le protocole de vaccination systématique des nouveau-nés. En juillet 2018, deux bébés sont morts après une injection de vaccin anti-rougeole. Leur décès n'avait rien à voir avec le vaccin lui-même. Il s'agissait en fait d'une fausse manipulation des infirmières. Mais l'affaire a fait beaucoup de bruit. Les anti-vaccinations s'en sont emparées dans une micro-société insulaire de 200 000 habitants. Ça a fait immédiatement beaucoup de bruit donc. Et fin 2018, il n'y avait plus au Samoa que 31% de bébés vaccinés. Alors que selon l'OMS, il faudrait un taux de vaccination de 95% pour exclure toute épidémie. Il a donc suffi de quelques mois d'interruption du protocole de santé publique, résume The Guardian, pour que la maladie se reconstitue chez les bébés samoans et que l'épidémie se déclare à nouveau. Après, ça a été le cercle vicieux, d'autant plus vicieux que c'est en se ruant dans les hôpitaux et les cliniques avec leurs enfants malades que les parents inquiets ont participé à propager la maladie. À présent, une nouvelle campagne de vaccination obligatoire a été lancée. Le pic épidémique semble passer, nous dit The Samoan Observer, qui nous laisse sur une image glaçante, celle de dizaines de petits cercueils blancs qui viennent d'être acheminés sur l'archipel, car forcément il a fallu les faire venir de Nouvelle-Zélande pour faire face à cette demande soudaine et contre nature. Deux mois après le début de l'épidémie, le temps du deuil ne fait que commencer au Samoa.
Merci Camille Magnard. On peut réécoutez votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr, 7h42.